carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Aujourd'hui, Canal Académie met la gravure à l'honneur. Carrefour des Arts est heureux de recevoir Louis-René Berge, tout fraîchement élu membre à l'Académie des Beaux-Arts le 9 novembre 2006 dans la section de gravure, donc un jeune académicien à la carrière de graveur et plus spécifiquement de buriniste bien affirmé. Louis-René Berge, bonjour.
Bonjour.
Vous avez commencé la gravure en 1960 avec les encouragements d'un grand peintre et graveur, Jacques Villon, frère de Marcel Duchamp et du sculpteur Duchamp Villon. Vous vous êtes ensuite accordé une petite interruption d'une dizaine d'années pendant lesquelles vous avez mis votre talent au service de la publicité pour revenir définitivement à votre passion, la gravure au burin, en 1975. Et avant de vous présenter à notre antenne, et pour bien faire sentir presque physiquement, si on peut dire, le travail et l'engagement du graveur, je voudrais citer quelques lignes d'un de vos amis écrivains, Claude-Louis Combet. « Avec le burin pour seul outil, il est impossible de tricher », nous dit Claude-Louis Combet. « L'œuvre est exemplaire d'honnêteté. Elle ne parade pas. Elle se tient élaborée dans la solitude du lieu, dans le recueillement de la pensée et dans la persévérance de l'effort. Elle offre sa singularité dans la simple affirmation d'une exigence de vérité intérieure qui ne saurait s'exprimer que selon les principes d'une esthétique de la rigueur, de l'équilibre et de la lucidité. » Alors, vous m'aviez confié, lui, René Berge, que le burin avait été pour vous un véritable coup de foudre et qu'il s'en était suivi de longues années de fidélité lourde de conséquences. Alors, quelle fascination cet art exerce-t-il sur vous, lui, René Berge? Racontez-nous comment le burin a fait irruption dans votre vie. Comment est-il devenu, disons, dans vos mains, l'instrument de votre art?
Alors, l'explication est la suivante. J'ai beaucoup dessiné.
Oui.
À l'encre de Chine, et j'ai toujours été très fasciné par le noir et blanc. Et lorsque j'ai eu la possibilité de graver, après avoir appris les différentes techniques de la gravure, le choix du burin s'est imposé, presque malgré moi. Il faut dire que la tenue du burin ne m'a posé aucun problème, contrairement à d'autres. Et cela a peut-être facilité mon choix dès le départ. Mais très vite, les exigences du burin m'ont sans doute aidé à trouver ma voix, mon écriture. Un des gestes les plus anciens de l'homme est celui de marquer, de laisser une trace pour témoigner de son existence. Très tôt, il a donc creusé dans des matières dures pour durer lui-même. Nous autres burinistes, nous avons cette préoccupation de graver, c'est-à-dire d'inscrire un acte, une pensée dans le métal.
Oui.
Afin d'immobiliser le temps. Je pense que les planches de cuivre, en fait, surtout celles des burinistes, qui sont en fait du ciselage, sont des plaques ciselées.
Oui, comme des orfèvres.
Comme des orfèvres, exactement. Elles devraient être montrées au même titre que l'épreuve. C'est-à-dire que dans certaines expositions, et malheureusement il n'y en a pas beaucoup parce que les galeristes ne veulent pas, je ne sais pas pourquoi, montrer les cuivres. Il faut peut-être les éclairer d'une certaine manière.
Alors que c'est vraiment de toute
Alors que c'est très beau. Un cuivre de buriniste, c'est très beau. Et j'ai eu l'occasion d'exposer justement, il y a quelque temps, à la fois le dessin, ensuite la plaque gravée et ensuite l'épreuve.
Oui. Imprimé, en quelque sorte.
Imprimé.
La gravure, donc.
Voilà.
Oui.
Voilà. Donc, au fond, on peut considérer la plaque de cuivre un peu comme le peintre sa toile.
Oui.
C'est-à-dire que la seule différence, c'est que le peintre travaille en direct, alors nous travaillons en indirect, puisqu'on travaille à l'envers.
Oui, encore qu'on parle de taille directe dans le cas du burin. Mais bon, mais ça, on va peut-être détailler ça un peu plus tard,
Oui.
quand on parlera des
Oui.
techniques.
Oui.
Si vous voulez bien, d'ailleurs, on peut en
Oui.
parler maintenant.
Non, non, mais
Parce que c'est
non,
intéressant pour les
non,
auditeurs.
simplement, j'insiste beaucoup là-dessus parce que j'aurai peut-être l'occasion de le redire, mais en fait, quand on choisit la gravure, on la choisit pour ses possibilités et non pas pour sa reproductibilité, puisque c'est un multiple.
Oui,
Mais
c'est en
en
même temps
fait,
un original et un multiple.
Voilà.
Oui.
En fait, si vous voulez, on travaille comme un peintre travaille sur sa toile, nous travaillons sur notre plaque de cuivre.
Oui.
Et cette plaque de tir, c'est notre labeur, c'est notre vérité.
Et ce n'est pas aussi simple que tenir son
ça,
pinceau.
C'est autre
Ça va
chose.
de soi. Oui, oui.
Oui.
Oui. Bon, justement, parlons des techniques de l'estampe en général. Là, on a un peu touché la gravure au burin, qui est donc cet instrument, cette lame fine. Peut-être vous pouvez nous l'expliquer
Oui,
un petit
alors le
peu.
burin est un outil qui est composé d'une tige en acier dont l'extrémité est pointue et qui est emmanchée dans une pièce de bois qui est en forme de poire, de manière à ce qu'il rentre bien, il soit tenu, il rentre
Dans
bien
la
dans le creux de la
paume,
main,
oui,
dans
dans,
la paume
oui.
de la main. Voilà. C'est un outil très tranchant qui trace des sillons sur la planche.
De cuivre, donc, en
Alors, du
général?
cuivre, oui, c'est généralement du cuivre, mais ça
Oui.
peut être de l'acier, ça peut être même des planches de plastique.
Ah.
Bon, enfin, moi, c'est surtout la feuille de cuivre que j'aime. J'aime sa couleur, j'aime son
Oui.
odeur. C'est très physique, tout ça. Voilà.
C'est entre le peintre et le sculpteur, en quelque sorte.
Oui, c'est ça, un petit peu, un petit peu. Nous sommes en taille directe, comme les gravures sur bois aussi, c'est pareil. Hein, ils travaillent avec des gouges, on appelle ça des gouges. On sculpte du bois ou du cuivre.
Oui.
On cisèle plutôt,
Oui.
en fait, du cuivre. Et on peut ciseler du bois, ça ne se dit pas, mais enfin, c'est un peu la même opération.
Oui.
Sinon, ce sont des opérations inverses.
Mais on considère, enfin j'ai entendu dire ça, je ne sais pas si c'est vrai, ou dans quelle mesure c'est vrai que la gravure sur cuivre est considérée comme la gravure noble par rapport à la gravure sur bois. C'est vrai?
Je pense que la gravure sur cuivre, effectivement, est beaucoup plus fine. La gravure sur bois, sauf, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux sortes de gravures sur bois. Là, vous m'entraînez dans des techniques. Il y a de la gravure sur bois de fil et sur bois debout. La gravure sur bois debout, on se sert d'un bois très dur, du poirier, et qui est coupé dans le sens perpendiculaire à l'axe de l'arbre. C'est-à-dire que c'est comme des cœurs, c'est dans
Oui.
le cœur. Alors que la gravure de fil, c'est dans le sens de la hauteur. Alors, la gravure sur bois,
Des estampes japonaises, par exemple?
c'est sur du bois debout. C'est-à-dire, on peut faire des choses très, très fines,
Parce que c'est quand même de
comme
toute
presque
beauté
du
aussi,
burin.
oui. C'est pour
Alors
ça que
que.
ça m'a un peu étonné. Excusez-moi de vous avoir entraîné donc,
Oui.
dans les
D'autant plus, c'est un
champs.
terrain où je ne veux pas trop m'aventurer. Parce
Oui.
que je n'en ai jamais fait.
Oui, gardons donc
Oui.
notre gravure, par exemple, donc au burin. Et puis, il y a aussi dans les autres techniques de l'estampe, il y a la pointe sèche, l'eau forte.
Alors, vous avez deux grandes techniques. Vous avez d'abord, il faut bien dire une chose, c'est que l'estampe recouvre un certain nombre de techniques. C'est très important. Et l'estampe recoupe la gravure, la lithographie, la sérigraphie et maintenant l'image numérique.
Oui.
Alors, dans la gravure, ce dont nous parlons ici,
Oui.
je suis graveur, vous avez deux sortes de manières de travailler, soit la taille directe, soit la taille indirecte. La taille indirecte, c'est l'acier qui creuse le cuivre. Et dans la taille directe, c'est l'homme. Voilà.
Guidé par la main, bien sûr.
Guidé par la main,
Oui.
Bien sûr. Voilà, ce sont les deux grandes directions de la gravure. Alors, les sous-directions, si je puis dire, dans la gravure, c'est alors un certain nombre de techniques qui sont l'eau forte,
La
l'aquatinte,
aquateinte,
et puis le vernis mou, enfin, il y en a des quantités.
oui, qui appartient donc à la taille indirecte,
qui appartiennent
si
à
j'ai
la
bien
taille
compris.
indirecte.
Oui.
La taille directe, c'est juste le burin et.
Et la pointe sèche, peut-être?
Pointe sèche. Voilà, la pointe sèche.
Ben
Bravo.
voilà, on y est. Alors, on peut faire un bon
Alors
tableau,
là,
gravure au burin
Voilà.
et la pointe sèche appartiennent donc à la taille directe.
La taille directe.
Et tout ce qui est la taille indirecte et l'aquatinte, il s'agit d'une autre méthode.
C'est-à-dire, l'artiste dessine, bien sûr, sur la planche, mais l'agent qui va creuser, c'est l'acide.
C'est ça. On le met dans un bain d'acide.
Dans un bain, voilà.
Voilà. Et après, il y a donc plusieurs procédés.
Bon, alors, c'est... L'aquatinte, c'est un peu difficile à expliquer.
Enfin, oui. Bon, et après cette première aventure, cette première pénétration dans l'aventure de la gravure, on va s'accorder une petite pause avant de reprendre notre entretien avec lui, René Berge. Après cette petite pause, nous allons reprendre notre entretien avec lui, René Berge, élu en 2006 dans la section de gravure à l'Académie des Beaux-Arts. Après cette première pénétration dans le monde de la gravure, nous allons voir maintenant un petit peu votre parcours. Vous êtes né à Bordeaux et parmi vos ancêtres, certains viennent de pays assez lointains. On peut dire que dans votre berceau, vous avez déjà réuni une sorte de mondialisation.
Si on veut.
Le destin vous a plongé dans la gravure comme dans un bain initiatique.
Oui, dans ma famille, il y a une particularité, c'est qu'en fait, du côté paternel, j'ai un ancêtre qui était général sous Napoléon et baron d'Empire.
Oui.
Et par contre, du côté maternel, c'est l'île Maurice. Et mon arrière-grand-mère était une indienne. Parce que mon arrière-grand-père avait dû trouver une de ces indiennes qui venait avec les esclaves à l'époque.
Oui.
Jolie.
Donc du côté maternel.
Côté maternel. Ma mère, d'ailleurs, avait un type un peu indien. À l'île Maurice, on disait les hindous à l'époque. On ne disait pas les indiens, on disait les hindous. Voilà. Non, enfin, c'est comme ça.
Et vous ressentez en vous-même ce mélange, non ?
Rien du tout.
Vous vous sentez français de Bordeaux,
français.
Bordelais, aimant éventuellement le vin de Bordeaux ?
Voilà, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait.
Et avez fait votre scolarité ?
J'ai fait ma scolarité
en partie. Dans l'Hexagone ?
Oui, à Bordeaux, chez les jésuites, d'abord, et puis ensuite, je suis venu à Paris faire des études. Bon, j'ai été reçu à Sciences Po et puis j'ai abandonné, j'ai fait un peu de droit. Et puis finalement, j'ai tout abandonné. C'était pas tellement ma direction et la suite l'a prouvé d'ailleurs. Donc, je me suis marié avec la fille d'un graveur.
Oui.
Qui était, comme m'a dit Jean-Marie Granier, un grand professionnel de la gravure.
Oui.
Un grand artisan. Mm-hmm. C'était pas un artiste, c'était un très grand artisan. Et quand je me suis marié, ma femme m'a dit « Demande à mon père de te montrer comment on tient un burin. »
Ça vous intrigue ?
Non, non, je dessinais beaucoup.
Oui.
Il m'a passé ses outils. Il est parti chez lui au bord de la mer, où il avait une maison. Et je suis revenu le voir et je lui ai montré mon travail. Il m'a dit « Mais vous avez l'air doué pour ce genre d'exercice. » Et finalement, 15 jours après, il s'est noyé. Son bateau, je ne sais pas ce qui s'est passé, il était à une partie de pêche et il est tombé du bateau avec, il était avec un autre ami et ils sont tous les deux noyés. Et voilà, c'est assez curieux. Et là, il y a eu ce fameux coup de foudre a été là, c'est-à-dire que il m'a passé ses outils, il a vu que j'étais doué, j'avais fait quelques traits au fond, et tout de suite il m'a dit bon ben vous devriez continuer. Et à ce moment-là, ça m'a évidemment...
Ça vous a laissé un choc, disparition, bien sûr.
Et j'ai commencé à faire des burins. Et c'est à ce moment-là que j'ai montré un peu mon travail aux uns et aux autres, notamment à Villon.
Ils vous ont encouragé,
J'ai fait ma première exposition chez Camille Renaud, qui était à l'époque à Puteaux. C'était quelqu'un qui était assez connu dans le domaine de l'art. Tout seul, dans mon coin, j'ai fait des gravures. J'ai exposé à la gravure contemporaine, dont le président à l'époque était Guastalla, lequel m'a beaucoup aidé. Mais malheureusement, toujours pour des raisons économiques, j'ai été obligé d'abandonner. Étant donné que je dessinais assez bien, je me suis dit que la publicité, ça pouvait être une ouverture. Et j'avais fait d'ailleurs avant l'école de publicité. Et puis j'ai ouvert une agence et pendant 10 ans, je n'ai absolument pas touché à un crayon, à un stylo, à bien sûr un burin. Et je n'ai même pas été voir aucune exposition, rien du tout. Je me suis plongé
dans la gestion de la publicité. Ouais.
J'étais associé avec un ami catalan, espagnol, qui était assez bon financier. Et moi, j'étais plutôt, disons, la partie technique. On avait un bureau de dessin, enfin bon. Et puis, j'allais voir les clients.
Et le créatif.
C'était plutôt le côté créatif. Et finalement, nous avons assez bien réussi. Moi, je suis devenu le PDG de cette société. Et puis, au bout d'un certain temps, je ne peux pas dire que la publicité, c'était une chose qui m'emballait. Jamais beaucoup, parce qu'on était contraints. On est contraint par le client, on lui montre un projet, un dessin, etc. Bon, c'est son goût qui prévaut et pas...
Donc, on n'avait pas la liberté de l'artiste,
ça c'est très important. Alors finalement, comme ça j'avais à peu près réussi, j'ai pu vendre cette affaire assez bien, je me suis pris une année de sabbatique, et puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment recommencé à faire du burin. 10 ans après.
Il y a eu un trou de 10 ans. Dans les années 75. Voilà.
À ce moment-là, j'ai repris.
Votre liberté d'artiste.
Ma liberté d'artiste en créant une toute petite affaire de vente par correspondance de cartonnage. Et qui me
pour
laissait.
Pour assurer quand même le quotidien, pour payer les factures.
Parce que j'avais tout de même 2 enfants, dont les 2 ont fait des études importantes, surtout une qui en a fait 14 ans d'études, ce qui est tout de même pas mal. Bon, qui est médecin. Donc, il fallait que j'assure, et je dois dire que cette période a été, du point de vue création, je pense importante pour moi, parce que j'étais dans une espèce de contrainte. D'ailleurs, il y a un certain nombre de suites de gravures que j'ai appelées les petites angoisses quotidiennes, parce que tous les mois, je me disais, est-ce que je vais bien finir? Est-ce que la fin de mois va se terminer comme il faut? C'est-à-dire que j'étais toujours un peu inquiet sur la...
C'est le lot de beaucoup d'artistes.
Voilà. Et puis d'affaires aussi. C'était une petite affaire, il fallait tout de même. C'est elle qui me faisait vivre. Ça n'a jamais été ma gravure. Il faut bien le dire. D'abord, il est très difficile à un moment donné pour un autodidacte comme moi, parce qu'en fait, du point de vue artistique, je suis tout à fait autodidacte. Je n'ai pas fait les beaux-arts, j'ai rien fait du tout.
Vous êtes un talent inné, naturel pour le dessin, et le dessin vous amenez vers la gravure.
Oui, c'est ça. Et puis, à un moment donné, qui est un acte, c'est de se dire, bon, il y a une prise de risque. Hein. Oui. Je savais que je me lançais dans une activité qui ne m'apporterait rien. Je n'avais plus qu'une petite affaire. Et je crois qu'au point de vue création... Cette situation un peu de contrainte forte m'a fait faire sans doute mon meilleur travail. Pendant les 10 ou 12 ans qui ont suivi, je crois que c'est la période où j'ai vraiment créé mon personnage d'artiste, enfin trouvé ma voix, trouvé ce que j'avais à dire.
Cette contrainte, cette nécessité ou cette angoisse du quotidien,
cette angoisse,
qui a forgé encore plus votre trait.
C'est ça. D'ailleurs, une grande partie de mes gravures reflète cette angoisse de l'enfermement, beaucoup.
Justement.
Il y a des caisses chez moi.
Je voulais ouvrir un grand chapitre de notre entretien qui concerne spécifiquement votre œuvre. Alors, peut-être quelques mots pour rendre compte, pour nos auditeurs, de la singularité de vos gravures, cette légèreté qu'on en ressent, mi-abstrait, avec juste quelques rares objets inscrits ou plutôt flottants dans le tableau. Des chaises, des bancs, des voiles, si ce n'est des fils de fer, par exemple, des fils de fer barbelés. Outre cet esprit résolument poétique qui s'en dégage, on croit apercevoir aussi une dimension métaphysique. Parlez-nous un peu de votre gravure.
C'est très difficile. Il y a des gens qui ont un certain talent pour parler de ce qu'ils font. Moi, je ne crois pas l'avoir. Simplement, mes gravures sont assez biographiques, d'une certaine manière. Ce sont des autoportraits, pas mal, ou des situations que j'ai vécues dans la vie courante, et aussi, peut-être certaines réflexions d'ordre, j'ose pas dire métaphysique, enfin, je ne veux pas employer des grands mots comme ça, mais c'est sûr que il y a une réflexion, par exemple, j'ai toute une partie de mon œuvre qui représente des gens vus de haut, et où c'est l'ombre qui est plus importante que le personnage.
Oui, enfin, il y a ça, des ombres intérieures,
des ombres intérieures,
tableau,
oui, voilà.
Titre, l'ombre c'est intérieure.
Ça. Vous savez, je peux vous parler techniquement de mon œuvre, mais vous savez, un artiste, il ne sait pas trop ce qu'il... Souvent, enfin, certains en tout cas, ils ne savent pas trop ce qu'ils disent.
Oui, mais je peux peut-être vous aider en faisant une petite description donc à notre antenne de cette, par exemple, de cette gravure qui s'appelle L'ombre intérieure, où on voit l'ombre d'un arbre et l'ombre, justement, se reflète sous la forme de l'homme. Tout ça est une réflexion entre probablement la nature. Enfin là, je ne me permettrai pas de faire une interprétation.
Si, je crois que chacun, au fond, et c'est ça peut-être l'intérêt d'une œuvre d'art, c'est qu'elle doit dire à celui qui regarde. Je pense que le regardant est lui-même participe à la création de l'œuvre, puisqu'il a son interprétation. C'est un acte de vie, et on ne sait pas trop ce qu'on fait. On fait des choses... C'est peut-être après, quand on voit l'œuvre complète, que effectivement on voit tout de même des directions.
Oui.
J'espère en tout cas que quand on regarde ne serait-ce que ce catalogue, où il y a tout de même qu'une gravure sur trois reproduite, mais on voit tout de même le parcours. Alors, qui est un parcours d'une part technique, c'est-à-dire que je tiens mon burin d'une certaine manière, je fais plus exactement des traits d'une certaine manière, et le parcours, disons, l'histoire. Mon histoire. Ou l'histoire que peut se raconter chacun qui regarde.
Oui. L'histoire de l'homme artiste et de ses préoccupations depuis la vie quotidienne jusqu'à la métaphysique. Tout se lit à travers ces gravures où on trouve des titres comme « Glissement d'une ombre portée » ou « La grande bousculade »,« La faille »,« L'ombre intérieure » dont nous venons de parler. Et puis le facteur temps joue un rôle déterminant dans votre œuvre.
Alors le facteur temps joue un rôle déterminant. Tout d'abord parce que la pratique du burin demande du temps. C'est-à-dire que, si vous voulez, mon travail se fait en deux vitesses. L'une correspond au tracé des traits alignés les uns à côté des autres à des intervalles réguliers. Et pendant cette accumulation, l'automatisme prend le dessus et assoupit un peu la conscience. Et j'ai un de mes amis graveurs qui est en même temps batteur de jazz, qui est d'ailleurs un élève de Granier, et qui est buriniste comme moi, et qui dit que, en fait, quand on fait ce travail de précis de traits, quand on trace les sillons les uns contre les autres, on ne voit pas ce qu'on fait, on le sent.
Ah oui.
C'est très curieux. Et c'est comme un rythme de batteur. En fait, quand on fait une erreur, quand un trait, étant donné que vous avez vu que je fais pour partie dans mon travail des traits longs, et
qui
donne une vibration à la gravure et surtout enlève de la dureté à l'image, étant donné que le burin, en principe, va droit. Et moi, j'ai toujours eu le souci d'onduler mes traits pour donner un velouté ou donner un mouvement ou quelque chose de vivant au travail.
Oui, il y a parfois vraiment, on sent comme des vagues
ou
des montagnes.
Alors donc, le temps, alors là, il y a ce temps-là. Et puis, il y a un deuxième temps qui est alors le temps qui est celui où, en fait, on trace les objets qui sont à l'intérieur de cet espace. Étant donné que l'espace, dans certaines de mes gravures, est fait de ces longs traits, à l'intérieur, il y a un sujet. Et alors, dans ce sujet, le temps passé est un temps qui est totalement différent. Bon, là, on est très attentif, il n'y a plus question de rythme à ce moment-là, puisqu'on fait des traits qui dessine un objet.
Comme une chaise,
comme
par
une
exemple,
chaise,
comme
etc.
je disais tout à l'heure.
Donc là, c'est en fait, si vous voulez, il y a deux temps dans toutes ces gravures. Il y a le temps de la, du fond, je dirais, hein, et il y a le temps de la forme qui est à l'intérieur du fond. Il y a une caractéristique du Burin, c'est que quand on dessine, on va généralement de haut vers le bas.
Oui.
Et au Burin, on va du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on ne dessine pas de la même manière. Hein, c'est une des caractéristiques
du Burin.
Du Burin. Le Burin, il va de base en haut, toujours.
Ah, d'accord.
Alors que le dessin, on peut aller aussi de bas en haut, mais la plupart du temps, c'est le contraire.
On ne le sait pas, oui. Et puis vous dites quelque part dans un texte que le Burin est bien sûr un outil, qui est un outil, comme vous dites, définitif, qui n'admet pas ou difficilement le repentir.
Voilà. Alors ça, c'est une des caractéristiques très importantes aussi du Burin, et parce qu'on est obligé de faire attention à ce qu'on fait.
Ah oui.
Très attention. Et que quand on fait une erreur, et qu'on fait ce qu'on appelle une fusée, c'est-à-dire que le Burin part tout seul, et donc raye certains travaux qui ont été faits avant, c'est une catastrophe.
Une catastrophe.
Parce que c'est très difficile, c'est très difficile à effacer.
Je ris, mais normalement, une catastrophe.
Oui. Alors surtout quand on est à la fin d'un travail et qu'on fait une grosse bêtise, ça m'est pas arrivé trop souvent parce que j'ai l'habitude, mais c'est très embêtant. Donc si vous voulez, ça c'est une caractéristique importante du point de vue même de la création. On ne crée pas de la même manière dans la lenteur ou dans la rapidité. Donc là, c'est un travail qui est très réfléchi, où on fait très attention, où il faut avoir déjà une bonne vision de ce qu'on va faire.
Oui, donc le dessin est déjà très préparé.
Oui, où il y a déjà un dessin préparatoire et qu'on recopie, enfin dont on s'inspire, et même quelquefois qu'on recopie.
Oui.
Car entre un dessin et une gravure, même si sont presque pareils, c'est totalement différent. L'outil lui-même marque son saut. C'est important que... Et c'est une des raisons, d'ailleurs, ce qui est important, peut-être on pourra en parler, c'est que la gravure, en fait, est un multiple. Mais, au fond, moi, quand je fais une gravure, je pourrais simplement faire une œuvre unique.
Bien sûr, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est en même temps un original, la plaque de cuivre est comme un tableau
du
peintre.
Alors, il faut tout de même une épreuve. Il faut tout de même avoir l'épreuve.
Il faut bien sûr après l'épreuve, mais on pourrait tirer un exemplaire. Mais oui. Et pourquoi on ne le fait pas d'ailleurs?
Alors ça, on ne le fait pas parce qu'à l'origine, l'ambiguïté de la gravure, c'est que c'est à la fois un moyen de reproduction, tout à fait à la base, c'était le bois, et ensuite, tout au XVe siècle, c'est XVe siècle. Durer, Schongauer, Duvet, enfin tous ces gens-là, qui ont été des grands graveurs, ça a été au début un moyen de faire circuler des images.
Oui.
Et en même temps, dans le même moment, ça a été aussi un objet de création.
Oui, mais aussi pour faire connaître la peinture, par exemple les Flamands, pour les faire connaître en Italie,
exactement,
et vice-versa,
exactement,
pour créer cet échange entre artistes.
Donc, au fond, la gravure a été un moyen de reproduire, et dans le même temps, de créer.
C'était un outil marchand aussi.
C'était un outil marchand, exactement. Oui. Mais un certain nombre
de... À la gloire de certains artistes.
Voilà, c'est exactement. Mais ça a été en même temps, très rapidement, un moyen de création.
Bien sûr, oui.
Bon, quelques graveurs.
On connaît les gravures de
Durer.
Rembrandt, Durer.
Exactement.
Oui. Ici, je vous propose une seconde pause.
Canal Académie rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Reynac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des beaux-arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
On parle toujours de gravure. Nous sommes en présence de Louis-René Berge, fraîchement élu membre à l'Académie des Beaux-Arts dans la section de gravure. Donc, nous avons parlé de votre parcours, nous avons évoqué longuement votre œuvre. Et puis, il y a aussi une autre question qui m'est venue. Vos gravures se regroupent en trois formats, des petites, moyennes et les grandes gravures. Alors, est-ce qu'il y a une incidence du format sur l'écriture graphique ou le style, enfin votre
style? Tout à
fait,
tout à fait. J'ai deux écritures et trois formats.
Ah.
Alors, en effet, pour certains travaux, je trace des traits ondulés et parallèles et je crée des teintes en les rapprochant plus ou moins, qui donnent une teinte, une couleur et
plus,
même...
Plus foncé.
C'est ça. Et c'est... vous savez... on s'impose des règles en art. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'art s'il n'y avait pas des règles. Ne serait-ce que pour les transgresser de temps en temps. Mais là, moi, je me suis imposé une certaine manière de graver. Donc, ce sont ces traits parallèles et qui vont du gris au noir.
Oui.
Pour d'autres gravures, au contraire, je contretaille. C'est-à-dire que pour avoir plus de subtilité dans les tailles, mes sillons se croisent.
Mm-hmm. Qui donne encore
qui
plus
donne
de profondeur.
De possibilités de teinte entre le blanc et le noir.
Mm.
Alors ça, c'est pour l'écriture proprement dite. Et ensuite, alors, j'ai effectivement trois formats. Ben, c'est selon ce que j'ai à exprimer. J'ai commencé certaines gravures avec un certain format de cuivre, un peu au hasard, disons, bon, qui sont ce que j'appelle les grands formats, à la suite d'une circonstance privée particulière, qui était, disons, en gros, la mort de mon père. J'ai fait une série de gravures en prenant un format totalement différent. C'est une série de gravures que j'appelle moyennes, qui sont sur un espace qui ressemble à des toiles. Et les sujets sont à l'intérieur de ces toiles. Vous expliquez pourquoi, comment ça s'est fait, j'en sais rien.
C'est mais toujours est-il plus difficile de travailler sur un cuivre plus grand, non?
Non, pas du tout.
Non.
Je vous dirais que mes petites gravures qui font 13-18, je mets plus de temps quelquefois qu'une grande gravure, parce qu'elles sont très fouillées, donc elles sont très contre-taillées. Et puis, alors donc j'ai trois formats, les grandes, les moyennes qui sont assez particulières et qui disent quelque chose de tout à fait différent en fait. Je ne sais pas quoi encore une fois, mais ça dit quelque chose d'autre.
Ce sont d'autres motifs.
Ce sont d'autres motifs, c'est une autre pensée.
Vous avez donc une autre inspiration.
Ça a un peu un rapport avec support-surface peut-être, enfin, je ne sais pas. Peut-être que j'ai été influencé. Et j'ai mis des personnages sur des toiles, c'est-à-dire dans un espace qui n'est pas un espace réel.
Oui.
Qui est un autre, un espace autre. Et je dois dire que dans beaucoup de mes gravures, justement mes fonds de gravure, au burin, c'est un espace autre, un espace qui est d'une certaine manière abstrait et pas abstrait.
Oui, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure.
C'est ça, oui.
Oui.
Mais
c'est mis abstrait, et puis les objets flottent dans l'air. On a souvent une vue plongeante sur les personnages ou les objets ou les arbres ou les bancs. Il y a beaucoup de chaises dans vos tableaux, on a vu ça. Donc les sujets sont différents selon le format, souvent. Pas systématiquement.
Tout à fait. Alors je finis. Les petites gravures sont au contraire très fouillées et sont très noires et blancs, sont très foncés d'une manière générale.
Oui.
Bon. Et je dis tout à fait autre chose, c'est une autre manière de m'exprimer. Voilà.
Est-ce qu'il y a une différence au point de vue valeur marchande pour, par exemple, ces formats?
Oui, je dois dire que c'est tout à fait absurde. Mmh. Parce que mes petites gravures, qui me demandent beaucoup plus de temps, je les vends beaucoup moins cher que les grandes.
Ah oui.
Ça se vend, les peintures se vendent au point, là ça se vend au format, c'est comme ça.
En effet, bon, absurde.
C'est absurde, c'est comme
oui,
ça.
Oui.
Donc mes petites gravures qui me demandent plutôt plus de temps que mes grandes, ben, je les vends beaucoup moins cher.
Oui, d'ailleurs, à propos de valeurs marchandes, on ne peut que regretter une certaine sous-estimation de cet art en général. On se pose aussi la question, pourquoi la gravure est-elle si absente des grandes manifestations?
Oui. Oui. Alors, pour répondre à cette question, il faut remonter un peu dans le temps. La grande ambiguïté de la gravure est qu'elle a été longtemps, comme je l'ai dit déjà, un moyen de reproduction de l'écrit et de l'image, et presque dans le même temps, un moyen de création. Bien que ce ne soit pas le moment de faire un discours sur l'histoire de l'art, je suis obligé de remonter à l'époque qui suit immédiatement la dernière guerre, pour expliquer cet état de fait. Ce fut l'époque où la gravure se vendait. Elle était présente partout, elle était appréciée par les amateurs, et les hebdomadaires réservaient un espace pour la critique. À cette époque, les acheteurs, qui n'avaient pas beaucoup d'argent à la suite de la guerre, eh bien, ont apprécié la gravure, qui était un moyen bon marché pour se procurer des œuvres d'art originales.
Même s'il y avait, l'original était un peu multiplié quand même.
Ah oui, non, mais voilà, alors ça c'est très important. Chaque gravure, je veux dire, chaque épreuve est originale. C'est très important, oui. C'est pas une reproduction.
Oui.
Hein? La reproduction, c'est de prendre un tableau, de faire une gravure d'après le tableau. Ça, c'est une reproduction.
Oui.
Là, vous faites votre planche et toutes les épreuves sont des épreuves originales. Et à cette époque, la gravure était reconnue et les ateliers de taille douce travaillaient à plein régime. Et en même temps, ça a amené à la surface un certain nombre de bons graveurs. Puis peu à peu, les amateurs ayant des moyens financiers plus élevés commencèrent à se tourner vers la peinture. Alors, il y a aussi autre chose qui a été très grave pour la gravure, c'est que dans les années 70, il y a eu un certain scandale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'artistes qui, consciemment ou non, ont abusé de la crédulité de certains en signant des feuilles blanches. Et en laissant le soin de la numérotation à leur convenance, à la convenance des gens à qui ils voulaient vendre ce
oui.
travail, les épreuves.
C'était
de la tricherie, voilà. Ça a fait beaucoup de mal. Il y a la fameuse histoire que tout le monde connaît, des gravures de Dali, qui étaient d'ailleurs des lithographies, qui ont été
et
multipliées.
Et de Braque aussi, je crois qu'on a
un
fait Braque pas
Braque aussi,
mal de...
bon, ouais. Braque aussi, il a signé...
De faux, oui.
Oh, de beaucoup de...
Parce qu'on peut parler de faux, carrément.
C'est carrément des faux. C'est-à-dire qu'on lui faisait signer la feuille de papier, et puis on imprimait...
Oui,
bon, et on
en
tirait,
le vendant comme gravure, alors que c'est...
Alors, c'était des gravures
exactement
originales.
Contraire à l'esprit de la gravure que nous avons vu tout à l'heure,
exactement.
Qui est l'exemple même de la taille,
oui.
Qui reflète une honnêteté du travail.
C'est ça, oui, oui. Alors, ces deux raisons furent à l'origine du déclin de la gravure. Il faut dire aussi que les galeries se sont très vite aperçus que, finalement, ils se donnaient autant de mal pour vendre une peinture que de vendre une gravure. Dans le cas de la gravure, gagner, si vous voulez, sur 10 et gagner 1, alors qu'en peinture, sur 10, ils gagnaient 5. Voilà.
Oui.
Donc, finalement, peu à peu, l'enrichissement... Les galeries se sont aperçues que c'était plus facile, et donc la gravure a subi le contre-coup de cette attitude, enfin, qui était assez normale, économiquement normale. Enfin, alors, je dirais aussi que, de manière générale, la gravure, par son format, propose une lecture intimiste. Et à l'époque où prime le spectaculaire, les couleurs vives, les grands formats, c'est un handicap pour la gravure. Alors, certains graveurs, tout de même, sont mis au goût du jour et ont fait, avec quelquefois bonheur, des grandes gravures. Mais, par exemple, en ce qui concerne le burin, qui doit se regarder à une faible distance pour être apprécié, eh bien, c'est un inconvénient. D'autre part, 80% des gravures sont en noir et blanc, en tout cas en France. Et l'amateur, il peut pas mettre des choses noir et blanc sur ses murs. C'est pas très gai, disons.
Peut-être, mais c'est un autre regard. Quand je suis venue dans votre atelier, c'était pour moi d'abord une merveille par la découverte de la finesse du travail. Enfin, je ne vais pas commencer à faire une description de ma visite, mais en tout cas, c'était l'éblouissement. Comme la première association qui m'est venue à l'idée, c'est la contemplation d'une nature morte. Votre gravure a ce trait de l'intemporel, de l'infini, et donc cette frontière entre l'objet quotidien, comme par exemple la chaise, le banc, le voile ou le fil de fer barbelé, et sa prolongation dans le ciel, quelque chose flotte avec vos traits, et on est dans la contemplation, c'est là où on a osé prononcer le mot métaphysique tout à l'heure. On revient toujours à votre œuvre, c'est quand même l'essentiel de notre entretien. Bon, mais on a vu aussi de nombreuses expositions en France et à l'étranger où vous avez montré votre
Oui,
œuvre.
bien sûr.
Je vous propose de marquer une nouvelle et dernière pause avant de reprendre notre entretien, Louis-René Berge. Nous reprenons notre entretien avec Louis-René Berge de l'Académie des Beaux-Arts. Et il est question, bien sûr, de gravure. Comme nous avons vu déjà, une gravure est à la fois une œuvre originale et un multiple. Alors, Louis-René Berge, quelles recommandations peut proposer le graveur que vous êtes?
Alors, il faut d'abord savoir un certain nombre de choses quand on veut se procurer une gravure. Cette gravure doit être signée par l'artiste. Généralement, il signe en bas à droite. Deuxièmement, elle doit être numérotée. Alors, la numérotation se fait en indiquant un numéro en bas à gauche. Il y a un premier numéro qui est le numéro de l'épreuve et le deuxième numéro, le numéro du tirage général, c'est-à-dire que 4 sur 30, ça veut dire que c'est la quatrième épreuve sur 30 prévues
Que le graveur
que le graveur
prévoit,
prévoit,
mais qui ne se réalise pas
qui ne
forcément.
sera pas forcément.
Oui.
Dans la plupart des cas, malheureusement.
Ça dépend un peu de la commande. D'accord.
D'accord.
En tout
Ouais.
cas, chez vous, c'est, j'ai pu voir, c'est en général 1 sur 20, 1 sur 30.
Oui, c'est 30. Dans ma jeunesse, j'étais plus prétentieux, je mettais 50. J'ai eu tout de même quelques épreuves.
L'idéal, ce serait 1 sur 1.
Oui, à l'idéal, ça serait 1 sur 1, mais il faut vendre ça comme un tableau, le prix d'un tableau.
Oui.
Il y a une troisième chose aussi, c'est les épreuves dites d'artiste,
Oui.
caractérisées par deux lettres, E et A, séparées par une barre, qui doivent être numérotées elles aussi, c'est-à-dire que, et c'est généralement en romain. C'est très important cette histoire de numérotation parce qu'elle est contestée et peut-être contestable. Mais nous savons que tout ce qui est rare est cher. Et si une gravure n'est pas qualifiée par son numéro ou sa signature, elle devient un simple papier sans valeur marchande. Ce qui est regrettable pour l'artiste
Bien sûr.
qui demande une numérotation, une rémunération de son travail. Bon, et c'est un peu la même chose pour le galeriste. Il faut que, justement, les graveurs soient très sérieux et tiennent des fiches par gravure. Enfin, moi, je sais que j'ai une
vraiment
fiche
un registre.
Par
oui.
registre. Il faut faire très attention.
Avant que ça ne sorte de, l'atelier, que ça soit bien voilà. numéroté.
Alors, je crois que maintenant, les graveurs font de plus en plus attention à ça.
Oui.
Parce que ça dévalue leur travail.
Et est-ce qu'il y a une différence entre le premier, disons le 30e
non.
tirage, non?
Non. Oh non.
Parce que alors, dans les estampes japonaises, il y a une différence.
Oui.
À la fin des tirages, il y a évidemment une déperdition de couleur,
oui.
de finesse de
trait. En ce qui concerne, moi, le burin, ça peut tirer 2000 exemplaires.
Ah oui.
C'est très, très costaud,
ah oui,
c'est très creusé.
C'est donc taillé dans les
cuivres. Non, nous, c'est très arbitraire. On dit, on pense qu'on va tirer. Alors, moi, j'ai une théorie qui est toute nouvelle, dont j'ai parlé à la Bibliothèque nationale, lors d'une petite conférence, où je voudrais faire des éditions. C'est-à-dire que quand un artiste fait une gravure, il ne sait pas du tout s'il va en vendre 2, 10 ou 50. Bon. Donc, il ferait une première édition à 3 ou 4 exemplaires.
Oui.
De manière à avoir les gravures chez lui et une gravure dans 1 ou 2 galeries ou les montrer, enfin, peu importe. Un petit tirage. Et puis, si l'œuvre se développe, si elle est achetée, si elle a du succès, eh bien, à ce moment-là, on fait une deuxième édition. Et on écrit en bas à droite où on veut, ou derrière, enfin, ça on fait un peu chaque artiste, mais il doit mentionner deuxième édition.
Oui.
Alors, ça donne aussi, un peu comme pour les livres, ça donne une petite plus-value à la première édition. Alors, ça, c'est mon idée, qui n'est pas du tout répandue jusqu'à maintenant. Je crois que personne ne le fait.
Mais je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde.
C'est dans l'intérêt de tout le monde. Alors, je voudrais qu'on prenne en compte cette idée et que maintenant, les graveurs, ça libère. Vous comprenez, vous vous dites, bon,
oui.
ben, je ne ferme pas mon œuvre. Ou... Comme on disait tout à l'heure, ça peut être une épreuve unique, mais ça, personne ne va acheter une œuvre. C'est pas dans les us et coutumes, simplement, mais ça pourrait l'être, au fond. Bon. Ou alors, on fait une première édition et une deuxième édition. Et entre les deux, il y aura une petite marge, une petite plus-value.
Oui, absolument, voilà. Et vous avez donc participé à de nombreuses expositions en France et aussi à l'étranger. J'ai vu que vous êtes représenté en Allemagne, en Autriche, même à l'Albertine, hein, s'il vous plaît.
Oui.
Cette belle et très, très ancienne institution des arts graphiques, oui. donc en Autriche, à Vienne, aux États-Unis, etc. Vous avez travaillé avec des jeunes, vous êtes amené à participer à des jurys. Alors la question se pose, quels sont vos critères d'appréciation de la gravure ?
Alors voilà, ça c'est une question difficile.
Oui.
Que je me suis posée il y a déjà assez longtemps. Mais enfin, je suis arrivé à la conclusion suivante. Et pour moi, il y a 3 critères. Le premier est la connaissance parfaite de la technique employée par le graveur.
Bien sûr.
Où il sait comment on cuit un grain, où il ne sait pas. Où... Enfin bref, ça c'est, à mon avis, c'est le point de départ. La technique. Le second critère, c'est l'écriture, le style. Ils doivent être personnels. Alors, cela demande de pouvoir consulter un certain nombre d'œuvres quand on est dans un jury.
Oui.
Je me souviens d'un marchand, bien connu d'ailleurs, que quand il y a quelques années, il y a longtemps même, quand j'avais été le voir pour lui montrer mon travail, je lui avais apporté 3 ou 4 gravures. Et il m'avait renvoyé en me disant, monsieur, je ne vous recevrai que si vous m'apportez 25 gravures. Et il avait raison. Parce que là, on voit...
L'écriture,
on voit la constance. C'est très important.
Oui.
Et vous... C'est dans la durée du travail que se dessine peu à peu la signature de l'artiste, disons. Et ce critère, à mon avis, il est assez bon. Et là, la troisième chose, qui est beaucoup plus difficile à détecter, j'ajoute une chose. Au point de vue de l'écriture, quand on voit une originalité, quand on voit un parcours, on voit si c'est un épigone ou pas. On voit s'il a imité quelqu'un ou pas. S'il a une écriture personnelle ou pas. Mmh. Et ça, c'est important. Et à partir du moment où on a une écriture personnelle, généralement, on a un monde. Pas toujours, parce que cette écriture peut être courte, enfin... C'est pas toujours le cas, mais enfin, généralement, c'est le cas. Donc, alors là, ce troisième critère, qui est le monde de l'artiste, savoir ses centres d'intérêt, ses obsessions, Je crois que dans mon cas, on voit des obsessions dans mon travail.
Oui,
on les voit.
Oui, absolument.
Le fait de faire barbeler,
oui.
C'est tout de même les caisses, les chaises qui sont la représentation de l'homme aussi, enfin d'une certaine manière.
C'est une Ça supporte la lourdeur de l'homme et de l'âme.
Exactement.
Oui, il est beaucoup question, disons, d'obsession, mais on les sent à peine parce que vos obsessions flottent un peu dans l'air, n'est-ce pas? Oui.
Oui, elles sont dans un univers, je ne sais pas si ça flotte, mais c'est un univers un peu particulier, disons,
oui.
Qui est personnel. C'est-à-dire qu'on peut faire dire à un objet, il y a une phrase de Benjamin que je trouve extraordinaire, je pense que je vais la retrouver, il faut déchiffrer le banal comme un rébus.
Ah oui.
Et c'est une très belle phrase.
Le découper en quelque sorte.
C'est-à-dire que quand vous regardez un objet, un verre, c'est un rébus. Ça peut être un rébus.
Oui.
Ça peut être tout bêtement un verre, mais ça peut être bien d'autres choses qu'un verre.
Oui.
Hein?
Déjà qu'il peut être à moitié vide ou à moitié plein.
Oui, ça c'est une chose. Mais déjà, Magritte a bien dit, ce n'est pas une pipe,
oui.
Etc. Bon. Oui. Alors, cette phrase de Benjamin résume bien, déchiffrer.
Le banal. Comme un rébus.
Je trouve que parce que, en plus, le mot rébus est important. C'est pas forcément mystère, c'est rébus. Ça veut dire que ça a une signification. Et ce rébus est différent pour chacun.
Bien sûr. C'est en quelque sorte un appel à la présence de l'homme
oui.
que vous traduisez dans vos gravures.
Oui.
Comme ici et maintenant.
Oui. Oui, oui.
Avec les différents objets qui flottent ou qui ne flottent pas, qui sont inscrits dans votre taille, dans votre sillon.
Oui.
Oui.
Enfin, vous voyez, votre vision à vous, c'est qui flotte. Mais c'est très bien d'ailleurs. Moi, non, pas du tout, il flotte pas du tout.
Ah, non.
Mais peu importe. Le règne de l'art, c'est l'ambiguïté.
Oui.
Voilà,
restons sur l'ambiguïté. Mais une chose qui n'est pas ambiguë du tout, c'était votre élection à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est une distinction qui, bien sûr, vous honore, mais qui peut aussi vous offrir de nouvelles possibilités. Alors, vous pouvez penser à quelques-unes. Est-ce que ça peut vous servir de créer peut-être une plus grande place à la gravure?
Ah ben, c'est tout à fait mon ambition.
Oui.
Je suis rentré dans cette section où finalement nous avons Trémois qui a été très jeune académicien, qui maintenant est un homme âgé, mais qui ne paraît pas. Il a l'air très jeune, il fait très jeune. Mais il habite en dehors de Paris, il vient assez rarement à nos séances. Il y a Guy Livic qui est un homme qui vient aussi assez peu, et puis qui fait des timbres, enfin bon. Et puis mon ami Jean-Marie Granier, qui, lui, est très occupé puisqu'il est directeur de Marmottan.
Du musée Marmottan.
Donc, je dirais pas que la place est vide, mais je voudrais un peu essayer de m'occuper et j'ai commencé déjà un petit peu à penser à faire connaître mieux la gravure, même auprès de mes confrères.
Oui.
Qui connaissent mal.
Créer peut-être des manifestations qui...
Voilà, créer des manifestations...
Qui serait peut-être mieux médiatisé aussi.
Voilà, et puis...
Et vous avez pensé à un confrère en particulier?
Bien sûr, M. Cardin.
Oui, qui a plusieurs espaces.
Qui a un espace
et
magnifique.
Et qui fait bien sûr partie de l'Académie des Beaux-Arts.
Oui, qui a un espace qui s'appelle Évolution, qui est quasiment un immeuble.
Mmh.
Et je lui ai demandé l'autre jour s'il serait d'accord pour faire une exposition de gravure. Il m'a dit oui.
Ah.
Alors, maintenant, il faut voir les modalités de cette exposition, comment on va la faire, avec qui, etc. Ça, il faut qu'on voit ça avec M. Granier.
Donc, nous arrivons malheureusement au terme de notre entretien. J'ai commencé par une citation et je voudrais marquer la fin également par une citation qui est extraite du discours de M. Jean-Marie Granier que vous venez d'évoquer à l'occasion de votre installation à l'Académie des Beaux-Arts. Discours qui d'ailleurs fera l'objet d'un deuxième volet de notre émission, au même titre que votre discours de réception, Louis-René Berge. Voici donc les paroles de Jean-Marie Granier au sujet de votre œuvre. « Ombres intérieures » est le titre de l'une de vos estampes, ce pourrait être celui de l'ensemble de votre œuvre. Atteindre la simplicité de l'écriture dont vous avez le désir ne va pas de soi. À chaque instant, on bute sur le réel, sa complexité et ses pièges. Vos œuvres, qui certes ne sont pas réalistes, ne peuvent cependant éviter d'en citer des fragments. En les traitant par l'accumulation, la précision aussi bien que par l'allusion, vous leur ôtez leur poids de matière pour en faire les figures de votre imaginaire et par là celles de votre propre langage. Merci à Jean-Marie Granier pour ces mots en hommage à Louis René Berge, graveur nouvellement élu parmi ses pairs, graveur de l'Académie des Beaux-Arts. Et ici, je voudrais donner une dernière information pour nos auditeurs. Nous nous proposons de prolonger cette émission à une réflexion plus large sur l'histoire de la gravure à travers les âges, dans un troisième volet, alors cette fois-ci sur la gravure. Et au terme de cette émission, je voudrais d'abord vous remercier infiniment, Monsieur Berge, de nous avoir fait pénétrer dans les coulisses de la gravure. Et en votre qualité de graveur, vous avez été donc élu à l'Académie des Beaux-Arts et je voudrais m'associer à votre vœu que cette reconnaissance soit aussi celle de la gravure afin qu'elle trouve toute la place qu'elle mérite au sein des arts plastiques.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de parler de cette gravure qui m'est si chère.
Merci à nouveau et à bientôt au Carrefour des Arts sur Canal Académie.